Quel est le mode d'emploi de la Bible ? Nous avons ce livre à portée de main. La question, c'est de savoir ce que l'on en fait. Cette question, évidemment, peut susciter de nombreuses réponses. Et je crois que, suivant la réponse que l'on donne, eh bien, on tombe, je dirais, dans un certain type de protestantisme ou dans un autre. Et que, en fait, tous les protestants, globalement, se disent vouloir être en rapport avec la Bible comme le principe fondateur de la foi, mais suivant la manière avec laquelle on l'utilise, il peut y avoir de nombreuses différences. Ma réponse à moi, c'est que la Bible, ce n'est pas un livre à apprendre par cœur. La Bible, ce n'est pas un traité de morale. Je ne pense pas que la Bible, ce soit un livre à obéir, en quelque sorte. Ce n'est pas non plus un livre à croire, ce n'est pas un traité de doctrine ou de dogmatique, ce n'est pas non plus un livre d'histoire, mais la Bible, c'est une nourriture. Et donc la réponse que je voudrais donner à cela, c'est celle qui est dite par l'ange à Jean dans l'Apocalypse au chapitre 10, quand justement Jean voit un petit livre dans la main d'un ange, et puis il y a une voix qui lui dit « Eh bien, tu vois ce petit livre, prends-le et avale-le. » Et en disant ça, il reprend cette parole d'Ézéchiel, où là, de la même manière, Ézéchiel, le prophète, voit en vision le livre qu'est la Bible, et Dieu lui dit « Eh bien, ce rouleau, ce livre, prends-le, mange-le. » Et je crois que c'est ça, la méthode pour utiliser la Bible. Cette parole, il faut l'intégrer, la mettre en soi, pour qu'elle nous construise petit à petit. Il faut l'intérioriser en quelque sorte, en faire la source même de son être et de sa vie. Il faut la déguster, la savourer. Et cette symbolique, elle me semble intéressante, parce que quand on mange un aliment, eh bien avant, il nous est étranger, avant, il n'est pas nous, et quand on le mange, il devient nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une façon de s'approprier, dans le fait de manger, de s'approprier le monde extérieur. Et ça a une grande importance, parce que non seulement ça devient une partie de nous-mêmes, mais ce que l'on mange, ça ne fait pas que passer à travers le tube digestif pour être rejeté. Ce que l'on mange, il y a une partie qui finit même par nous construire. C'est-à-dire que ça devient nous-mêmes. Et donc nous sommes, en quelque sorte, constitués uniquement de particules qu'un jour ou l'autre vous avez mangé. Ça, c'est important de le savoir. Les scientifiques disent que depuis notre naissance, toutes les cellules de notre corps ont été remplacées au moins une fois. C'est-à-dire qu'il ne reste rien aujourd'hui des particules, des molécules, des cellules qui étaient ce que vous étiez quand vous êtes né. Alors d'où viennent toutes ces cellules qui constituent ce que vous êtes aujourd'hui ? Réponse de ce que vous avez mangé un jour ou l'autre. Et ainsi manger, c'est prendre quelque chose d'extérieur et le mettre à l'intérieur de soi-même pour que de l'intérieur, eh bien, cela puisse nous construire et nous constituer. Et je crois que c'est important parce que nous prenons grand soin de nourrir notre corps, et je viens de vous le dire, mais nous ne sommes pas que des corps. Nous ne sommes pas que des animaux à nourrir. Mais nous sommes aussi des âmes, des intelligences. Nous sommes aussi des sujets moraux. Nous avons aussi une liberté. Et tout cela également, je crois, se constitue progressivement au cours de la vie. Et tout cela aussi est une sorte de partie fragile de notre existence qui doit être entretenue et qui doit être nourrie. Le Christ dit cela, et c'est pour moi un des versets les plus importants de la Bible. Verset que je cite, je crois, à chaque leçon de catéchisme, et donc les catéchumènes doivent le connaître à force. C'est ce que j'appelle le verset tout-terrain, parce qu'on le sort dans toutes les circonstances, c'est un verset à citer. Je l'appelle le verset tout-terrain parce que la référence est Matthieu 4:4, comme les tout-terrains, on s'en souvient. Et c'est un miracle d'ailleurs, c'est qu'il se trouve deux fois dans le Nouveau Testament, et la deuxième fois c'est en Luc, référence 4:4. Donc c'est en Matthieu 4:4 et Luc 4:4, le verset essentiel, le verset tout-terrain, vrai pour toutes circonstances et en particulier pour celle d'aujourd'hui. Ce verset, c'est Jésus qui le dit lors de la tentation et qui le reprend de Deutéronome 8. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est-à-dire que, oui, certes, nous avons besoin de pain pour être en bonne santé physiquement, mais l'homme a besoin d'autres choses pour nourrir sa vie, d'autres choses pour être en bonne santé. Il a besoin d'un pain spirituel, il a besoin d'autres choses. Et ce verset nous dit que ce pain, eh bien, c'est les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et ça, c'est tout au début du ministère du Christ, les tentations du Christ, avant même qu'il commence. Et curieusement, c'est tellement important, cette histoire, qu'on va le retrouver tout à la fin du ministère. Les dernières, pratiquement, paroles de Jésus se passent aussi pendant un repas. Tiens, quel hasard! Voilà une religion qui commence par un repas, qui finit par un repas. Et lors de ce dernier repas, Jésus va avoir ces paroles très célèbres en disant « Tenez, prenez, mangez, ceci c'est mon corps ». Alors ces paroles ont été beaucoup, beaucoup commentées, « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Je ne pense pas que Jésus ait jamais pensé instaurer un rite, comme si être chrétien c'était le dimanche prendre un petit morceau de pain de 1,5 g et que si on le mange comme ça, et bien tout de suite notre âme serait nourrie. Je n'y crois pas une minute à cela. Je pense que c'était aussi une image. Et Jésus dit, prenez, mangez ce pain, et ce pain, c'est mon corps. C'est-à-dire, nourrissez-vous de moi-même. Nourrissez-vous de ce que je vous ai dit. Nourrissez-vous de ma personne. Nourrissez-vous de tout ce que j'ai été, tout ce que je vous ai montré, tout ce que je vous ai dit. Mangez ça. Mangez mon corps, mangez mon sang, mangez ce que je suis. Mangez ma force, mangez ma joie, mon enseignement, mon témoignage, ma parole. Nourrissez-vous de cela, buvez cela, enivrez-vous d'évangile. Et c'est comme ça que vous serez de vrais chrétiens, et c'est comme cela que vous vivrez. Je crois que c'est ça, effectivement, la chose essentielle, cette façon de dire, je crois que Jésus-Christ, il est justement la parole incarnée. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, et nous devons donc, cette parole de Dieu, la manger, et cette parole de Dieu, elle s'est trouvée présente en Jésus-Christ. Et donc nous nous nourrissons du Christ lui-même. Et se nourrir de l'Évangile, cela ne veut pas dire le connaître vaguement, ça ne veut pas dire « oui, je sais, il y a la parabole du bon samaritain, du semeur, tout ça, j'en ai entendu parler quand j'étais petit », mais ça veut dire le prendre vraiment pour le mettre en soi, le manger, la faire sienne cette parole, en faire la source même de sa force, de sa vie et de ce que l'on est. Et ça, c'est peut-être plus encore que vous ne l'imaginez. Parce que je vous l'ai dit, nous sommes constitués de ce que nous avons mangé, pour ce qui est de notre corps, et ça se passe par un processus assez mystérieux et assez complexe. Parce que je vous ai dit, tout ce que vous êtes aujourd'hui, vous l'avez mangé un jour. Alors vous vous demandez, mais attends, est-ce que c'est la choucroute que j'ai mangée l'an dernier? Est-ce que mon œil est fait de la nouille que j'ai mangée hier? Non, ça se passe, je dirais lentement, par une sorte de processus un peu mystérieux et extrêmement progressif qui fait que ce que l'on mange progressivement, eh bien, fait ce que l'on est. Je crois que dans la nourriture spirituelle, c'est la même chose. Nous lisons beaucoup, nous nous nourrissons de cette Bible, nous lisons, nous intégrons autant que possible, mais ce n'est pas nécessairement du jour au lendemain qu'en lisant la Bible, vous trouvez le verset qui change votre vie. On lit la Bible et le plus souvent, eh bien, on mange la Bible comme on mange tous les jours son pain et je dirais sa nourriture quotidienne. Bon, voilà, ça ne change pas énormément grand-chose, c'est rien de spectaculaire dans la lecture de la Bible. Mais je crois que sur le long terme, eh bien, ça finit par forger ce que nous sommes. Ça finit par construire ce que nous sommes et ce que nous devenons en quelque sorte. Notre être intérieur, notre personnalité, tout ce que nous sommes, il est fait de la nourriture spirituelle que nous avons bien voulu lui donner. Et ce qui nous constitue, ce sont les idées auxquelles nous voulons prêter attention, les lectures que nous faisons, les sources que nous choisissons pour notre réflexion. Alors Jésus met en garde les disciples à un moment donné. Il parlait toujours un peu d'une façon imagée. Et il dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Ce n'était pas une parole qui concernait la méthode de fabrication du pain. Méfiez-vous du levain des pharisiens parce que, la Bible le dit d'ailleurs, il entendait par là l'enseignement des pharisiens. Il disait, méfiez-vous parce que ces gens-là, ils ont une doctrine, ils ont un enseignement qui est délétère. Un enseignement qui peut, si vous en faites le centre de votre vie, ça vous construira de travers, en quelque sorte, et ça risque de vous faire du mal. Et au contraire, Jésus dira, en Jean 6, que c'est lui le pain de vie, le pain vivant qui descend du ciel et qu'il faut manger. Le chrétien, c'est celui qui choisit l'enseignement du Christ et le Christ lui-même pour nourriture essentielle de sa vie et qui veut le mettre en lui pour y trouver la source essentielle de son être. Alors donc, je crois que finalement, on devient ce que l'on mange. Et je pense que l'on devient à l'image de ce en quoi l'on croit. On devient à l'image de ce en quoi on met sa confiance, c'est-à-dire de ce que l'on veut intégrer et mettre dans sa vie. Dans le psaume 115, il y a quelque chose comme ça, il me semble, où le psalmiste parle de ceux qui ont des idoles et qui se font des idoles. Aujourd'hui, il n'y a plus d'idoles, mais l'idolâtrie, c'est les faux attachements, les mauvaises orientations de sa vie, c'est-à-dire qu'est-ce qui compte dans notre existence, vers quoi nous orientons notre vie. Et le psaume 115 dit, à propos de ceux qui ont des idoles, « Ils deviennent comme elles ceux qui mettent leur confiance en elles. » C'est-à-dire qu'on finit par devenir à la longue, à l'image du Dieu dans lequel on croit. C'est-à-dire que si on croit dans un Dieu de violence et de jugement, progressivement on devient violence et jugement. Et je pense que si on croit dans un Dieu d'amour et de bonté, progressivement, avec un peu de chance, eh bien, on peut devenir à l'image de ce Dieu dans lequel on croit. Et je pense que de la même manière, notre vie spirituelle et notre être, ce que nous sommes, finit par ressembler à ce que nous lui donnons à manger. Alors si on ne lui donne rien à manger, si on n'a aucune préoccupation spirituelle, aucune quête de sens, eh bien notre vie devient une carcasse vide et privée de sens. C'est nécessaire. Si nous ne lui donnons à manger que des choses insipides, facile et courante, notre vie a peu de chances d'acquérir une vraie valeur et de la profondeur. Et j'en rencontre des gens qui disent « Oh ben moi, j'ai pas besoin de me poser de questions, hein, j'ai ma petite morale. » Mais la petite morale de l'homme de la rue qui ne se pose pas de questions, qui ne vient pas se frotter aux textes difficiles, c'est en général extrêmement basique. C'est de dire « Moi, vous savez, tant qu'on m'embête pas, j'embête pas les autres. » Bon, c'est très bien, ça, c'est vraiment très évolué. C'est-à-dire, vous savez, moi, je ne fais pas aux autres ce que je ne voudrais pas qu'ils me fassent. J'ai pas mal. Donc, on tombe finalement dans des petites morales qui permettent de vivre ensemble dans la société, mais qui sont quand même d'une trivialité désespérante, en quelque sorte. Et donc, je crois qu'on peut être exigeant. On peut avoir, se dire, mais je voudrais qu'il y ait une nourriture consistante, de qualité pour mon être, finalement, pour mon âme. Et c'est ça la vraie démarche, je crois, du croyant, d'essayer de trouver, pour nourrir son âme, un message fondateur, essentiel, pour que notre vie puisse s'approfondir et s'enrichir dans cette dimension non matérielle, et que ça donne à notre vie une profondeur et une santé spirituelle qui dure jusque dans la vie éternelle, je dirais. Et cette idée, elle est très forte dans le judaïsme en particulier. Et il y a un précepte ashkénaze qui se dit en allemand ou en yiddish, je ne sais pas, qui marche sur un petit jeu de mots, qui dit « Man ist, was ist ». L'homme est ce qu'il mange. L'homme est ce qu'il mange. Et je crois que c'est tout à fait vrai. Et donc nous devenons finalement à l'image de l'exigence que nous avons eue pour trouver pour notre âme une nourriture qui vaille la peine. Et ça explique, je crois, pourquoi dans la Bible, il y a une telle importance donnée à la nourriture. Les très nombreux commandements juifs sont des commandements relatifs à ce que l'on mange, à la façon de manger, à la nourriture. Et dans toute la Bible, Dieu est montré comme celui qui nourrit son peuple. On le voit dans le désert, avec la manne, avec la caille. Et la nourriture matérielle, elle est souvent prise dans la Bible comme le symbole, comme la parabole de la nourriture spirituelle dont nous avons besoin, également d'une façon vitale. Et il faut relire tous ces passages dans ce sens-là. Et je crois que cette façon de comprendre que ces passages sur l'alimentation dans l'Ancien Testament sont en fait des comparaisons, des paraboles de ce que nous sommes invités à faire pour nourrir notre âme, permet de comprendre bien des choses et en particulier toutes les règles alimentaires qu'il y a dans le judaïsme. Ces règles alimentaires, vous savez, il y a des choses qu'on a le droit de manger et des choses qu'on n'a pas le droit de manger. Eh bien, je ne crois pas que ce soit des problèmes de corps, mais c'est un problème vraiment spirituel, d'une parabole. Par exemple, les commentateurs rabbiniques, quand ils commentent tous ces règlements, expliquent pourquoi le juif n'a pas le droit de manger du cygne. Alors, je ne sais pas si vous mangez souvent du cygne, en tout cas, il ne faut pas. C'est pas bien. Eh bien, il ne faut pas manger du cygne parce que, disent-ils, voilà, le cygne, il est bon, il est beau, il est blanc, mais en fait, ça n'est pas grand-chose de vraiment bon. Et par conséquent, le cygne n'est que de la poudre aux yeux. Et c'est l'image de l'orgueil, de celui qui veut faire le beau en déployant ses ailes, mais qui finalement n'est qu'apparence. Eh bien, l'homme ne doit pas se nourrir de cette idée qu'il pourrait essayer de se pavaner en donnant bonne apparence et en prétendant être un cygne, alors que le cygne, dans le fond, n'est pas très bon à manger. Et c'est pourquoi le cygne est impur, donc tu n'en mangeras pas, tu ne te nourriras pas de cette idée. De même, la question du porc. Alors, on a dit c'est parce qu'il n'y avait pas de frigidaire, mais... Attendez, je pense que la Bible est plus intelligente que les frigidaires, excusez-moi. Et donc ce précepte même, il provient du fait que le porc, c'est un animal qui se nourrit des déchets de la maison, des déchets d'ordures. Et c'est quelque chose que nous ne devons faire d'aucune manière. Nous ne devons pas nous-mêmes, spirituellement, intellectuellement, nous nourrir des déchets de notre société. Et nous devons aller chercher à la source pure d'une nourriture excellente, raffinée, bonne, intelligente, de qualité, et pas manger ce qui dégringole, je dirais, des médias et d'autres choses qui finalement veulent nous faire avaler des choses qui n'ont pas grand intérêt. Et le judaïsme dit, il ne faut pas manger de porc, parce que si vous mangez du porc, vous deviendrez à l'image de ce que vous mangez. De même, sont aussi considérés comme impurs tous les animaux mélangés, tous les bâtards, toutes les choses qui ne sont pas bien comme il faut, c'est-à-dire les poissons qui n'ont pas d'écailles, ou les poissons qui n'ont pas de nageoires, les ruminants qui n'ont pas le sabot fendu, enfin tout ce qui n'est pas net, si vous voulez, tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui n'est pas bien comme il faut, tout ça, vous n'en mangerez pas, parce que vous ne vous nourrirez pas de l'idée que vous pourriez, dans votre vie, manquer de franchise, de clarté. Il faut être ce que l'on est, avec netteté en quelque sorte. Alors le Christ, bien sûr, a relativisé l'interprétation littéraliste des pharisiens à ce sujet. Donc il a dit, ok, mangez de tout, du cygne, rôti si vous voulez. Mais il n'a pas relativisé le fait qu'il était essentiel de bien nourrir spirituellement sa vie. Et il est vrai que nous devons prendre garde de quoi nous nourrissons notre vie. C'est une question que nous devons nous poser sans cesse. Nous devons le faire avec notre intelligence. Et également d'ailleurs avec une autre attention, c'est que avant même de se demander ce que l'on va manger, notre âme a un problème. C'est que le corps, si on ne le nourrit pas, il a de plus en plus faim. Alors que notre âme, moins on la nourrit, moins elle a faim. Et donc si on ne se nourrit pas spirituellement, on en ressent de moins en moins le besoin. Donc ça, c'est la première précaution à laquelle il faut prendre, c'est de ne pas oublier de nourrir notre vie spirituelle, et ce, je dirais, réellement. Parce que de même que rester à côté d'un rôti dans le frigidaire ne nourrira pas votre corps, de même, rester avec votre Bible sur la table de nuit ne nourrira pas votre âme si vous ne l'ouvrez pas. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné la nécessité de faire le geste, je dirais, de concrètement nourrir sa vie. Et de même que le souvenir du rôti que vous avez mangé il y a 15 ans ne nourrit pas ce que vous êtes aujourd'hui, de même le souvenir de la parabole du semeur que vous avez lu il y a 15 ans ne vous nourrit plus. Il faut qu'il y ait un acte concret qui soit répété en quelque sorte et régulier. Et on trouve ça aussi dans ce que dit Dieu à propos de la manne. Vous savez, le peuple est dans le désert, et là Dieu lui donne la manne pour le nourrir. Là encore, ça a été lu comme une image justement de ce pain spirituel que Dieu nous donne. Et quand on regarde, Dieu donne la manne, mais il donne en même temps le mode d'emploi, justement. Il dit, attention, je vous donne la manne, mais il y a quelques règles à respecter pour que ça marche. La première, c'est, Dieu dit, il faut que chacun prenne pour lui. C'est-à-dire, chacun ramasse pour lui. Vous ne pouvez pas dire, j'en ramasse et puis j'en donne aux copains. Chacun ramasse pour lui. Ce n'est pas par égoïsme, mais c'est que je crois que dans le domaine spirituel, chacun mange pour lui-même. Et c'est ce que je ressens avec douleur, je dirais, quand je fais les catéchismes pour ces enfants. Ce n'est pas parce que moi j'ai lu plein de Bibles et que je suis plein de nourriture spirituelle que ça leur permettra à eux d'être tout à coup plein de foi. Je ne peux que leur dire, il y a là une nourriture, eh bien prenez-la et mangez-la. C'est-à-dire que même ce que ont mangé les parents ne nourrit pas les enfants, si vous voulez. C'est un travail à refaire à chaque génération et chacun doit sans arrêt refaire cette démarche dont on ne bénéficie pas automatiquement. Dans ce domaine, chacun est responsable de lui-même et on ne peut pas donner la foi à quelqu'un d'autre ou donner la nourriture à quelqu'un d'autre. La deuxième règle que donne Dieu à propos de la manne, c'est qu'il dit « vous ne pouvez pas la conserver ». Vous devrez tous les jours aller à la cueillette et vous mangerez tous les jours ce que vous avez cueilli. Parce que si vous la laissez traîner jusqu'au lendemain, elle deviendra infecte, dit le texte. Ça, c'est intéressant aussi. Et c'est bien vrai. De même que pour la nourriture terrestre, la meilleure façon de se nourrir, c'est de le faire régulièrement et petit à petit. Et il vaut mieux lire un psaume tous les matins. Ça, c'est une merveille. Que d'en lire 10 à la suite tous les 10 jours, ce qui provoquera immanquablement une indigestion. Il vaut mieux lire 3 versets tous les soirs que de se dire « Allez, j'y mets un coup et ce coup-ci je vais lire 3 évangiles à la suite plus l'épître aux Romains. » Indigestion garantie. Ou c'est comme les médicaments de votre médecin, ne pas dépasser la dose prescrite. Par conséquent, effectivement, il faut le faire petit à petit, quotidiennement, je dirais, progressivement, sinon on ne risque que l'indigestion ou finalement le dégoût. Et c'est justement cette façon progressive qui m'intéresse, parce que j'ai remarqué effectivement que, de même, comme je vous l'ai dit, la nourriture nous profite d'une façon curieuse, elle nous constitue, mais on ne peut jamais dire qu'est-ce qui construit quoi dans notre être, à quel moment, et qu'est-ce que l'on a mangé qui nous a construit. De même, on lit la Bible, et si vous lisez tous les jours un chapitre, ou même un paragraphe de l'Évangile, comme je l'ai expérimenté, comme je l'expérimente, c'est assez rare que le soir je me dise « Ah, oh, j'ai lu un truc dans la Bible, mais ça, oh, quelle merveille, quelle beauté, quelle grandeur !» Pour tout vous dire, je lis souvent la Bible avec ennui. Je lis un passage, je dis « Bon, bah, très bien, je ferme, et je me précipite pour lire quelque chose de plus distrayant avant de m'endormir. » Et donc très souvent, cette Bible ne me dit rien, mais je ne crois pas qu'elle me dise rien. Je crois que c'est justement comme la biscotte que je mange le matin sans beaucoup d'enthousiasme, mais qui finalement me nourrit. Eh bien, c'est petit à petit que sans que je m'en rende compte, tout ça devient me constitue et devient le fondement de mon être. Et ça devient une sorte de bibliothèque interne spirituelle dans laquelle eh bien, mon âme, mon inconscient ou mon conscience aura puisé au moment où il en aura besoin. Et je crois que tout cela progressivement nous construit. De même que vous dites à vos enfants, tiens, mange ta soupe, ça te fera grandir. Non, on ne le dit plus, ça. Moi, on me l'a dit. Ma grand-mère devait me dire ça. Je crois que c'est vrai, finalement. Mais c'est pas, si vous dites, si l'enfant dit, tiens, je vais manger toute la soupière, eh bien, il ne grandira pas de 10 cm d'un coup. Et pourtant, c'est vrai qu'il grandit s'il mange. Et donc, il y a effectivement comme cela, cette nourriture que nous mangeons, elle se fait petit à petit. Et de même que la nourriture physique que nous mangeons, il y a parfois des choses que l'on trouve bonnes. Je vous rassure, ça arrive. On trouve parfois des passages goulayants, extraordinaires, pleins de goût. On se dit « Ah, ça, j'ai pas perdu mon temps ». Mais il y a aussi des choses qu'on mange qui n'ont pas grand goût. Et on trouve aussi des fois des choses qui ne sont pas bonnes. Et là, je vais vous dire à vous, adultes, ce que vous dites sans arrêt à vos enfants. Ne mangez pas que ce que vous aimez. À vos enfants, vous leur dites « Il faut manger des épinards ». Eux, ils veulent manger que des frites et des pizzas. Eh bien, ne vous nourrissez pas seulement toujours que des béatitudes, de la parabole du bon samaritain, mais il faut aussi manger ce qui n'est pas évident et qui a de la consistance, parce que c'est ça qui, effectivement, peut permettre aussi de construire l'ensemble de notre être. Et donc, c'est peut-être même, d'ailleurs, ces passages un peu dérangeants qui, parfois, sont les plus nutritifs pour notre existence. C'est ce qu'on fait le dimanche en général. On trouve les passages les plus embêtants et on essaye de les enrober avec du ketchup pour que vous puissiez les manger. Mais en fait, ce sont ces passages-là qui nous construisent et qui nous font manger. Et donc, il faut trouver effectivement ces choses-là. Et je dirais, comme on dit dans la vie quotidienne, on dit un tel, ah, j'ai dévoré un roman. Eh bien, la Bible, il ne faut pas la dévorer, il faut la déguster petite gorgée par petite gorgée. Et ça, c'est également ce que dans la tradition monastique, on appelle la manducation de la parole. C'est de prendre un texte biblique et simplement de s'en nourrir. C'est pas d'essayer de chercher quand ça a été écrit, par qui, dans quel contexte, que ça signifie, l'interprétation, l'explication, non. Je prends cette parole et je la laisse rouler en moi, tourner dans mon être, et je la déguste, la manducation de la parole, et je mange cette parole et je l'avale et j'en prends une autre que j'avale à la suite. Et puis vous disais-je, cela dit, j'assume très bien qu'en même temps tout ce que l'on mange n'est pas nourrissant. De même que ce que vous mangez dans votre assiette, les 9 dixièmes, voire plus, partent, comme dit l'Évangile avec un certain euphémisme, partent dans quelques lieux secrets, n'est-ce pas? Eh bien, de même, ce que vous mangez spirituellement, je pense qu'il y en a beaucoup qui rentrent par une oreille et qui sortent par l'autre. D'ailleurs, que restera-t-il de ce que je vous ai dit? Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Mais je crois qu'il en reste quelque chose. Et donc, il ne faut pas pour autant se dire, puisque tout ce que je mange, ça repart aux toilettes, se dire j'arrête de manger. C'est absolument absurde. Il faut manger sans cesse, avec constance et avec conscience, et effectivement continuer dans cette dimension. Et puis enfin, je conclurai par la dernière comparaison. On pourrait continuer indéfiniment, mais je veux juste en garder une dernière. C'est une autre dimension essentielle dans le fait de se nourrir de la parole. Eh bien, c'est la convivialité. On mange mieux à plusieurs que tout seul. Ça, je le crois. Le repas, c'est aussi l'occasion de partager avec des frères et des sœurs, des seuls, des sœurs. Tout seul, on risque de perdre petit à petit l'appétit, la motivation. Donc la Bible tout seul, c'est possible, mais c'est très difficile. Et je pense qu'on risque de se décourager, de le faire de plus en plus vite, de plus en plus rarement, et finalement de manger un peu toujours la même chose sur un coin de table, comme le célibataire ou celui qui est tout seul, qui finalement se fait un petit œuf sur le plat vite fait. C'est pas très bon, ça. Donc il faut prendre le temps, s'installer, faire ce qu'il faut. Et c'est drôle d'ailleurs, pourquoi le rêve de tout le monde, c'est de manger aux chandelles et les bougies, c'est ce qu'on met dans les églises. Bon, sauf chez nous, parce qu'on est calviniste, alors on fait tout au minimum, pas de bougies, tout ça, mais néanmoins, je dirais parfois, il faut effectivement bien s'installer et profiter et manger avec d'autres. Et je crois qu'avec d'autres, les choses prennent un relief extraordinaire. Et je pense que c'est le sens aussi de la communauté chrétienne, justement, où ensemble on se met à table dans une sorte de banquet et on se dit, voilà, ensemble on partage une nourriture, et quand on le partage ensemble, tout prend un relief, je dirais, extraordinaire, et on peut aussi aller manger avec les autres, les uns chez les autres. En tous les cas, voilà cette image qui me semble essentielle et qui, je crois, explicite beaucoup le rapport que l'on peut avoir avec cette Bible, donc, où tout n'est pas à prendre tel quel, mais qui est, je le crois, très fondamentalement le pain de vie, la nourriture dont nous avons besoin. Et c'est ce que feront les catéchumènes lors de leur confirmation dans 15 jours, où on leur demande de professer leur foi. Donc ils disent « Oui, Jésus-Christ est mon Seigneur, ok ». On leur demande s'ils veulent faire partie de l'Église, ils disent « Oui, je veux bien ». Et après, pour marquer ça, on le marque par un geste, qui est justement un geste de repas, avec du pain et du vin. Et par le geste de prendre ce pain et ce vin, ils vont redire la même chose. Ils vont dire « Eh bien, moi, je veux faire partie de ceux qui considèrent que le Christ, représenté par le pain, c'est ma nourriture. Et je veux me nourrir du Christ et de l'Évangile. Je dis, c'est ça, le pain vivant qui descend du ciel. C'est ça, ce pain quotidien que je demande à Dieu dans la prière du Notre Père. C'est ce pain spirituel qui nourrit mon âme. Et je crois qu'il y a dans le Christ le pain de vie. » Profession de foi. Et de le faire ensemble, de dire, je veux faire partie de cette communauté de toute cette communion de ceux qui partagent le même pain. Et donc nous sommes ensemble à partager ce pain et ce vin qui est le corps du Christ, son enseignement, sa présence, et qui est pour nous source de vie, de joie, source de force pour notre corps, d'ébullition pour notre être, source de fête, de convivialité, et finalement qui nourrit notre âme pour la vie éternelle. Amen.